tout de suite le journal avec Anaïs Feuga. Bonsoir.
Bonsoir à tous. La guerre est terminée, tout le monde est pardonné. Prise de parole des nouveaux hommes forts de Kaboul cet après-midi. Les talibans en conférence de presse se veulent rassurants. Qu'ils fassent la preuve de ce qu'ils annoncent, dit le ministre français des Affaires étrangères, vous l'entendrez. Les 41 premiers exfiltrés de Kaboul viennent d'arriver à Paris alors que plusieurs centaines attendent encore à l'ambassade de France. Le témoignage dans ce journal de notre correspondante sur place. Des reprises de feu dans tous les sens. La partie est loin d'être gagnée sur le front des incendies dans le Var. Le chef de l'État est au PC des pompiers. Près de 6000 hectares parcourus par le feu et des milliers de sinistrés. La moitié du massif des Maures est complètement calcinée. La faune et la flore touchées. Bonsoir Eric Delvaux.
Bonsoir Anaïs.
Pourquoi tant d'incendies? C'est la question que vous posez au téléphone sonne.
Mais oui, vous avez peut-être entendu ce matin ces pompiers qui décrivaient une vitesse de propagation jamais vue jusqu'ici. Alors ces épisodes seront-ils plus fréquent à l'avenir et quelle prévention aussi, on posera la question à nos invités et vos questions, les auditeurs, comme d'habitude 01 45 24 7000.
À tout à l'heure, juste après le journal. La vaccination en France contre le coronavirus, l'objectif des 50 millions sera atteint pour la rentrée. Les locations de vacances abritent-elles dans le viseur de la répression des fraudes? Et puis le programme du festival de Deauville avec un invité de marque.
France Inter.
C'est la première fois qu'ils prennent la parole depuis leur prise de pouvoir il y a deux jours. Les talibans se sont adressés à la presse cet après-midi à Kaboul. Bonsoir Valérie Krova.
Bonsoir.
Vous avez suivi cette conférence de presse. Les talibans promettent une amnistie générale pour tous les fonctionnaires, mais ils sont restés évasifs sur certains sujets.
Oui, et en premier lieu sur les droits des femmes qui seront respectés, a souligné le porte-parole des talibans, mais dans le cadre de la loi islamique, la charia, ce que les talibans ne cessent de répéter. Elles pourront travailler dans les secteurs où elles sont nécessaires, a-t-il dit, mais sans rentrer dans les détails. À une journaliste afghane qui était dans la salle et qui lui demandait si concrètement elle pourrait continuer de travailler, Zabihullah Mujahid a botté en touche, laissez le gouvernement se mettre en place et vous serez fixé sur ce qu'il est possible de faire ou interdit. On se doute que les femmes afghanes qui ont tout à perdre avec le retour des talibans au pouvoir auraient aimé qu'il soit plus explicite. Le porte-parole des talibans n'a pas éludé une autre question posée sur leur idéologie. Elle n'a pas changé, a-t-il répondu. C'est la même qu'avant, comprenez, quand ils étaient au pouvoir entre 1996 et 2001. Mais c'est notre expertise qui est différente. Quant au futur émirat islamique qui sera établi en Afghanistan prochainement, a-t-il dit, Zabihullah Mujahid a pris l'engagement qu'il entretiendra des relations pacifiques avec les autres pays. Nous ne voulons aucun ennemi intérieur ou extérieur. L'Afghanistan ne sera pas une menace, a-t-il lancé à l'attention de la communauté internationale qui s'inquiète du retour des fondamentalistes sunnites à Kaboul.
Valérie Krova de la rédaction internationale. Alors la question de la reconnaissance du régime taliban par la France ne se pose pas, dit aujourd'hui l'Élysée, car la France reconnaît les pays, pas les régimes. Il faudra juger les talibans à leurs actes, dit le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian. Franck Madvon vient de le joindre à l'instant.
C'est vrai que ce n'est pas la même génération. C'est vrai qu'ils sont rentrés dans des négociations, en particulier dans des négociations avec les États-Unis. Ils déclarent vouloir acquérir de la respectabilité, de l'honorabilité, et c'est à eux de faire la preuve. Lors des discussions de Doha, puisque je vous rappelle que c'est à Doha en février dernier que la décision du retrait américain a été prise dans un accord avec les talibans. Ils ont annoncé à ce moment-là qu'ils ne reconnaîtraient plus le terrorisme et qu'ils le combattraient. Encore faut-il qu'ils le fassent. Ils ont annoncé qu'ils respecteraient les droits acquis au cours des 20 dernières années en Afghanistan. Il faut qu'ils le démontrent. Maintenant, il faut qu'ils fassent la preuve de ce qu'ils annoncent. Et la meilleure preuve serait de faire en sorte qu'il y ait un gouvernement de transition qui soit vraiment inclusif et qui montre que les talibans précisément ont changé et qu'ils veulent respecter le droit et qu'ils veulent mettre fin aux violences et faire en sorte que les populations civiles se sentent en sécurité. Il faut donc un gouvernement inclusif et représentatif qui répondre aux aspirations de la population et c'est à eux d'en faire la démonstration.
Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, qui participe cet après-midi à une réunion avec ses homologues européens, en particulier pour discuter du sujet brûlant des réfugiés. La chancelière allemande s'est dite ouverte à l'accueil contrôlé de réfugiés afghans particulièrement vulnérables. En France, plusieurs maires de gauche et écologistes se disent prêts à accueillir des réfugiés afghans. Marseille, Strasbourg, Lyon, Grenoble ou encore Clermont-Ferrand ou Tours. Eux sont partis partis avec le minimum nécessaire dans l'urgence, sans savoir s'il y aurait un billet retour. Les 41 Français ressortissants de pays partenaires exfiltrés depuis Kaboul viennent tout juste d'atterrir à Paris. Première rotation complète du pont aérien mis en place par la France. Des avions font la liaison Kaboul-Abu Dhabi, d'autres assure le trajet entre les Émirats arabes unis et la France. Et c'est ce vol que vous venez voir, que vous avez vu atterrir à l'aéroport de Roissy, Mathilde Himy.
Oui, heure d'arrivée, 17h34, terminal 2C. C'est la fin d'un très long voyage pour ces premiers ressortissants français et de pays partenaires. L'avion de l'armée de l'air est plein. Une soixantaine de soldats qui rentraient et qui devaient rentrer de toute façon de mission depuis la base française près d'Abu Dhabi. Il restait donc des places, ce qui a permis d'évacuer en urgence depuis Kaboul 41 personnes que l'on a vues sortir de l'avion, le pas lent pour certaines. Une famille avec ses instruments de musique ouvrant la marche. Tout ont pu rencontrer au sein du terminal des équipes du SAMU et de l'ARS pour un suivi psychologique ou une aide matérielle si elles le souhaitent. Et pour des tests Covid, ceux qui ne sont pas vaccinés pourront le faire et devront se placer en quarantaine. Dans ce vol, il n'y avait pas d'Afghans, d'après le ministère des Armées. Ils sont quelques dizaines qui ont travaillé avec l'armée française à être sur les listes des personnes à évacuer. Mais ils restent pour l'instant bloqués à Kaboul avec des négociations en cours. De nouvelles rotations sont envisagées dans les prochains jours.
Mathilde Dehimi en direct depuis Roissy. Vous le disiez, les évacuations depuis Kaboul se poursuivent, même si les routes pour se rendre à l'aéroport ne sont pas sécurisées, les postes de contrôle étant tenus par les talibans. Les locaux de l'ambassade de France dans la capitale accueillent les candidats au départ. Et c'est le cas de notre correspondante en Afghanistan, Sonia Ghezali. Elle se trouve au milieu des 400 personnes à évacuer. 105 ont déjà leur visa. Écoutez son témoignage recueilli par nos confrères de RFI.
On essaie de s'organiser tous ensemble parce qu'on a compris que finalement, nous qui devions rester que quelques heures au départ quand on est arrivé il y a 2 jours, ben ça prend plus de temps que prévu. Et en fait, des familles se partagent des chambres. Donc il y a par exemple 3 familles qui se partagent une chambre. On essaie de faire en sorte que les hommes qui pour beaucoup dorment à l'extérieur puissent accéder à l'une des douches. Voilà, et on essaie de faire en sorte que tout se passe de façon la plus cordiale possible. En revanche, il y a une autre partie de l'ambassade où se trouvent 300 personnes. Parmi elles, il y a des femmes, des féministes, des personnalités publiques, des artistes, des homosexuels et eux, et voilà, qui se sont sentis en danger dès la prise de pouvoir par les talibans, qui ont rappliqué ici dans l'ambassade de France pour être protégés. Et donc ces personnes, elles sont dans une autre partie de l'ambassade. Et on sait que parmi les enfants, il y a beaucoup d'enfants qui sont malades, qui ont des diarrhées. C'est sûrement lié à l'alimentation parce que on a commencé à manger ici des rations de combat, des rations alimentaires. Ça dure plusieurs jours, on va avoir un vrai problème d'approvisionnement.
Sonia Ghezali qui attend donc son exfiltration d'Afghanistan. Parmi les images qui marqueront cette journée, celle de 640 Afghans entassés dans un avion de transport de l'armée américaine. Nombre d'entre eux ayant grimpé à bord au dernier moment. L'équipage américain a décidé de décoller plutôt que de les forcer à descendre. Et puis le procureur de la CPI parle, lui, de violation du droit international humanitaire en Afghanistan. Il fait référence aux actes de violence. À ce sujet, lisez sur franceinter.fr l'histoire de ce comique afghan tué par les talibans fin juillet.
France Inter. Anaïs Feugat.
La fumée et l'odeur de brûlé sont perceptibles jusqu'en Corse où une alerte à la pollution atmosphérique a été déclenchée dans l'après-midi à cause du feu qui ravage le Var. L'un des incendies les plus importants de l'été en France, près de 6000 hectares parcourus par le feu. Des pans de forêt du golfe de Saint-Tropez engloutis sous les flammes, des vignes calcinées, les poteaux électriques renversés et la faune asphyxiée. Le feu s'est déclenché il y a 24 heures dans la réserve naturelle de la Plaine des Morts à Gonfaron. C'est là que s'est rendu le président de la République en milieu d'après-midi.
Le pire a été évité, puisque d'abord les vies ont été protégées et nous ne déplorons pas aujourd'hui de victimes de cet incendie et que malgré 3 blessés, auxquels je pense aujourd'hui et je veux apporter tout notre soutien, nos sapeurs-pompiers sont aussi continuer à être au combat, mais on puisse stabiliser la situation. Si cette saison des feux commence aujourd'hui, je crois que nous devons être très vigilants dans les semaines qui viennent, y compris peut-être plus tardivement qu'on ne le pense, jusque fin septembre, début octobre.
Emmanuel Macron a quitté au Luc cet après-midi. Des milliers de personnes ont été évacuées préventivement. 900 pompiers sont toujours mobilisés et le feu n'est toujours pas maîtrisé malgré les 11 canadaires qui sont en vol. Le vent s'est relevé. Dans le massif des Maures, le président David Ossiou a constaté un paysage lunaire et dévasté.
Stéphanie et Annie voulaient passer quelques jours de vacances entre mère et fille après une année très difficile. Alors le duo cherche une alternative à cet hébergement d'urgence.
Je ne vous cache pas qu'on cherche tout moyen de réserver autre chose, mais tout est complet ou tout est très cher.
Elles veulent partir, surtout la plus âgée qui n'arrive pas vraiment à dormir sur ses lits de fortune.
La nuit précédente, il y a un grand matelas bleu là-bas qu'on voit. On a dormi là et aujourd'hui, ils ont donné des lits de camp. Donc on va dormir sur les lits de camp.
Pour les deux vacancières, les 1200 sinistrés regroupés au même endroit posent aussi problème.
Après, il y a cette proximité aussi. Dans la crise sanitaire dans laquelle on est actuellement, c'est pas facile.
Sans grand enthousiasme, parce que même si l'accueil est formidable ici, ça joue sur le moral et de tout le monde, même des ados. Hugo compte vite oublier ses vacances.
Ça joue sur le moral parce qu'on a fait l'arrivée une nuit, un jour, et puis le soir... On est directement mis dans un centre d'accueil, donc c'est pas facile. Quoi.
Et dans le gymnase, beaucoup de vacanciers aiment retrouver leurs affaires au camping et rentrer chez eux. Parce que quoi qu'il arrive, les vacances sont terminées et gâchées.
Le reportage de Nina Valette, vous l'aurez compris, avec les réfugiés des incendies à Bormes, les Mimosas. Dans le Vaucluse, incendie en cours aussi aux Dentelles de Montmirail. Il est déconseillé de boire l'eau du robinet dans le secteur de Baume de Venise. Le Portugal, jusqu'ici plutôt épargné, est lui aussi touché depuis hier par un incendie en Algarve. France Inter, il est 19h11 en Haute-Garonne. Ce sont 500 flacons de vaccins qui ont été détruits dans un centre de vaccination contre le Covid à Saint-Aurens. 500 flacons, soit 3000 doses. Une enquête est ouverte pour faire la lumière contre cet acte de vandalisme. Les personnes qui devaient y être vaccinées ont été réorientées vers d'autres centres. À ce jour, 46 500 000 personnes ont déjà reçu au moins une dose de vaccin en France. Bonsoir Hélène Chevalier.
Bonsoir.
Ce sont les chiffres hebdomadaires du ministère de la Santé. La vaccination a un peu ralenti, mais la France fait mieux qu'Israël pour les primo-vaccinés.
Oui, avec 68% de sa population totale ayant reçu une première dose, le ministère de la Santé n'est pas peu fier d'annoncer que la France distance depuis la semaine dernière Israël d'un petit point. Israël érigé en modèle de la vaccination. Une autosatisfaction qui ne doit pas cacher un certain essoufflement. Certes, le rythme reste encore très soutenu malgré les vacances. 1,5 million de premières doses ont été administrées encore la semaine dernière, mais c'est un quart de moins que la précédente et les autorités sanitaires s'attendent à que cela se ralentisse encore dans les prochains jours. Pour atteindre l'objectif des 50 millions de primo-vaccinés, il faudrait que 3,5 millions de Français sautent le pas d'ici au 31 août. Les estimations de Doctolib, le site qui gère la majorité des rendez-vous, misent plutôt sur le 4 septembre, mais le ministère compte, lui, sur un rebond la semaine prochaine à l'approche de la rentrée scolaire.
Car Hélène, avec la rentrée scolaire, se pose l'enjeu de la vaccination des plus de 12 ans.
Oui, les chiffres sont assez encourageants. 52% des 12-17 ans ont déjà reçu une première dose, sachant que la campagne n'a commencé pour eux qu'il y a 2 mois, mais l'enjeu est d'accélérer. Les autorités prévoient pour cela la mise en place d'un accompagnement à la vaccination dans les établissements scolaires. Des équipes mobiles issues des centres de vaccination pourront être déployées dans les collèges ou les lycées. Autre possibilité, une sortie groupée des élèves, un petit peu comme une sortie scolaire, vers le centre de vaccination le plus proche.
Hélène Chevalier du service santé de France Inter. Le Royaume-Uni a autorisé aujourd'hui le vaccin Moderna pour les plus de 12 ans, le Pfizer ayant été déjà autorisé outre-Manche. Une villa en bord de plage louée pour les vacances, mais déjà occupée par d'autres vacanciers quand on arrive. Voilà le genre d'annonce frauduleuse déjà dénoncée depuis mars par 64 personnes qui poursuivent Abritel devant la justice. Aujourd'hui, la répression des fraudes assigne la plateforme de location de meublés touristiques devant le tribunal de Paris pour pratiques commerciales trompeuses. Elle lui reproche d'induire ses clients en erreur à propos des contrôles. Écoutez les explications de Rémi Slove, le porte-parole de la DGCCRF.
Par exemple, quand vous allez sur la plateforme Abritel, vous pouvez voir confiance et sécurité dans l'utilisation de la plateforme. Des contrôles sont mis en œuvre pour s'assurer des demandes. Vous pouvez réserver en toute sécurité. Nous sommes à votre disposition, etc. Ce que l'enquête de la DGCCRF a révélé, c'était une contradiction entre la communication commerciale de la plateforme Abritel, à savoir la présence sur le site internet et sur l'application mobile d'Abritel d'un certain nombre d'allégations qui mettaient en avant la fiabilité, la sécurité de l'utilisation du site, les garanties offertes par la plateforme aux utilisateurs et les conditions d'utilisation telles qu'elles étaient écrites et réelles qui en restreignaient la portée. Ça peut aller jusqu'à, par exemple, la republication d'annonces frauduleuses qui avaient été dépubliées après leur signalement.
Rémi Slov, le porte-parole de la répression des fraudes. La garde à vue des deux policiers que l'on voit tirer sur une voiture à Stein dans une vidéo devenue virale a été levée. On vous en parlait ici même hier soir. Le parquet écarte la piste de la tentative d'homicide volontaire. Une enquête va être ouverte pour violence avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique. Johnny Depp annoncé à Deauville pour le festival du film américain du 3 au 12 septembre. Les organisateurs voient dans cet événement une renaissance culturel, je cite, après 162 jours de fermeture des cinémas cette année. Ils ont dévoilé leur programmation aujourd'hui, Alexis de Meyer.
Ah oui, Anaïs, avec donc un pirate des Caraïbes qui va débarquer en Normandie. La superstar Johnny Depp sera à Deauville le dimanche 5 septembre pour une rencontre avec les festivaliers à l'occasion de la projection de City of Lies. Ce film retrace la difficile enquête sur les meurtres dans les années 90 des rappeurs Tupac et Notorious B.I.G.
A murder like that only goes unsolved. If the police don't want to solve. May you rest in peace
with my... Autre Américain dont la présence à Deauville est confirmée, Michael Shannon, le comédien fétiche de Jeff Nichols, va recevoir un prix d'honneur pour l'ensemble de sa carrière. Dans le Calvados également, début septembre, le réalisateur Oliver Stone, qui, 30 ans après son JFK avec Kevin Costner, remet ça avec cette fois-ci un film documentaire sur l'assassinat du 35e président des États-Unis. Le Canadien Denis Villeneuve viendra lui présenter le très attendu Dune, près de 4 décennies après la version de David Lynch. Un autre film fait déjà saliver les festivaliers, Pig du jeune prodige Michael Sarnowski, avec en tête d'affiche Nicolas Cage, dont la venue sur la Côte Fleurie reste en revanche très incertaine.
Et ben ça donne envie, merci Alexis. Le festival de Deauville, c'est à partir du 3 septembre. La météo.
La météo avec Hello Business, la nouvelle offre bancaire dédiée aux indépendants par Hello Bank. Plus d'infos sur hellobankpro.fr. Hello Bank est l'offre 100% digitale de BNP Paribas.
Et à Météo France, c'est Elodie Calac. Elodie, des nuages au nord et du soleil sur le sud-est.
Oui, bonsoir à tous. En effet, demain, un ciel gris du nord de la Seine vers la région parisienne et le Grand Est. Sur le nord-ouest, le centre-val de Loire, la Bourgogne, la Franche-Comté, jusqu'en Nouvelle-Aquitaine, on aura beaucoup de nuages le matin. Quelques rayons de soleil appréciables l'après-midi, mais assez discrets. De midi, Pyrénées vers l'Auvergne et le Lyonnais, là, ce sera bien nuageux le matin, mais avec de belles éclaircies l'après-midi. Et puis de la Méditerranée aux Alpes, du soleil, toujours du vent sur les régions méditerranéennes où le risque de feux de forêt va rester élevé.
Et Elodie, des températures qui sont encore trop justes pour la saison.
Oui, on est souvent 3 à 6 degrés sous les valeurs de saison. Comptez 19 degrés au Havre demain, 20 à Lille, Brest ou Nancy, 23 à Tours, Clermont-Ferrand et Bordeaux, 25 à Grenoble, à Montauban. Mais ça reste quand même très estival autour de la Méditerranée avec 31 degrés à Nîmes ou à Toulon et jusqu'à 33 encore possible dans l'intérieur du Var.
Merci Elodie Calac.